Pierre, chapitre 5. 1 Pierre au chapitre 5. Nous arrivons au dernier chapitre de ce livre, de cette lettre de l'apôtre Pierre, et nous allons lire les 9 premiers versets de ce chapitre. 1 Pierre, chapitre 5. Il dit: voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, et témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, et il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Prions, Seigneur, que tu nous conduises par ton esprit, que tu nous illumines, que tu éveilles notre pensée, que tu éclaires notre cœur et que tu nous donnes d'être attentif et obéissant à ta parole pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, donc parvenu à la fin de cette lettre, l'apôtre Pierre éprouve le besoin d'adresser quelques recommandations, on pourrait dire pratiques, hein, si vous avez fait attention. Il y a plein de petites recommandations pratiques dans ce qui vient d'être lu. Une manière de dire que la vie chrétienne, ça n'est pas simplement un ensemble de grandes lignes théologiques, de grandes vérités théologiques, mais surtout de pratiques. La doctrine a pour but la pratique, et la vie chrétienne se vit dans la pratique. Mais parvenu donc à la fin, l'apôtre Pierre disait au chapitre 4 et au verset 7 que la fin de toute chose est proche. Donc parvenu à la fin, l'expression de la fin de toute chose, il veut s'adresser particulièrement aux anciens, parce qu'il parle aux anciens ici. Il dit: voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Il s'adresse aux anciens, mais il parle des anciens, mais il parle des anciens à qui? Aux églises, on pourrait dire, parce qu'il dit: voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Il veut que les églises entendent ce qu'il a à dire aux anciens. Lorsque l'apôtre Paul était à Milet, lorsqu'il remontait vers Jérusalem, il fait appeler les anciens d'Éphèse, il leur parle. Mais ici, Pierre écrit et il veut que les églises, que l'église entende ce qu'il recommande aux anciens. Il le fait en tant qu'ancien lui-même. Il dit « moi, ancien comme eux ». Il ne dit pas « moi, apôtre ». Il avait commencé sa lettre en disant « Pierre, apôtre de Jésus-Christ ». Il ne dit pas « moi, apôtre, voilà, je vous dis comment vous devez faire les choses ». Mais il se place lui-même comme un ancien. Mais quand même, il dit aussi « témoin des souffrances de Christ » parce qu'il a été témoin oculaire. Donc ça fait quand même quelque part référence au fait qu'il est un témoin oculaire, qu'il est un apôtre de Christ. Et participant aussi de la gloire qui doit être révélée. Il a eu un avant-goût de cette gloire sur le mont de la transfiguration. Et il sait qu'un jour aussi, tous les chrétiens participeront à cette gloire qui doit être manifestée. Donc il écrit à ses anciens. Et probablement, c'est parce que c'est important dans les temps dans lesquels vit l'Église. Alors ici, c'est pas dans nos traductions, il n'y a pas le mot « donc », mais dans le texte original, il y a « voici donc les exhortations que j'adresse ». C'est-à-dire qu'il y a un lien avec ce qu'il vient de dire avant concernant les souffrances concernant la fin de toutes choses, le jugement qui doit commencer par la maison de Dieu. Et à la maison de Dieu, il y a chaque membre de l'Église, il y a aussi, bien sûr, ceux qui dirigent l'Église, il y a les anciens. Alors, on pourrait partager les versets 1 à 4, plutôt 2 à 4, en trois grandes questions, trois grandes exhortations. Il dit ici ce que les anciens doivent faire, verset 2, paissez le troupeau qui est sous votre garde, et puis comment ils doivent le faire, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et puis, on pourrait dire, il montre aussi pourquoi ils doivent le faire. Verset 4, « Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils doivent le faire? Et pourquoi ils doivent le faire? Alors ce matin, je vous propose que nous restions sur le premier aspect seulement. Nous n'aurons pas le temps de voir les deux autres, une prochaine fois les deux autres. Donc ici, comment est-ce que les anciens doivent agir? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc le titre du message ce matin, c'est l'exhortation aux anciens. Et premièrement, la responsabilité première des anciens. La responsabilité première des anciens. Verset 2, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » On veut juste rester sur cet aspect des choses ce matin. Il semble qu'on ait des anciens ou des pasteurs notre idée de ce qu'ils devraient faire. Et je suis certain que chacun, on a notre petite idée, on a notre petite liste de comment ils devraient faire, comment ils devraient, qu'est-ce qu'ils devraient faire dans l'Église. Et parfois, on a souvent l'idée de quelque chose qui ressemblerait plus davantage à un homme orchestre, hein, c'est-à-dire ou à des hommes orchestres, hein, des gens qui doivent être prêts à tout faire, qui doivent tout faire, qu'on appelle pour tout, pour celui qui est malade en passant par la fuite dans les WC. Tout ça, ça concerne ce qu'il doit faire. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture dit ici, quand même, quand elle parle de l'Église et des anciens. Elle est très claire, elle fixe très clairement comment l'Église de Dieu doit être considérée, comment elle doit être dirigée et quelles sont les responsabilités des uns et des autres, et particulièrement les responsabilités des anciens. Donc la responsabilité première des anciens, c'est ce que nous voulons considérer ici ce matin. Premièrement, dans ce passage ici, je crois que Pierre montre qu'ils doivent prendre conscience, les anciens doivent prendre conscience, et l'Église aussi, puisqu'il crie à l'Église, doivent prendre conscience de la nature de la relation que Dieu veut entre les anciens et l'Église. On pourrait dire ça comme ça. Nature de la relation que Dieu veut entre les anciens et l'Église. Il commence par dire, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » La première chose dont il faut prendre conscience, c'est que l'Église est le troupeau de Christ, de Dieu, et que Christ est le souverain berger. C'est ce qu'on voit ici dans le verset, au chapitre 5 et au verset 4. Il dit, « Et lorsque le souverain berger, » donc là il parle de Christ, « paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » ici. Donc, l'Église est le troupeau de Dieu et Christ, le souverain berger. L'image du troupeau et des brebis existe dans l'Ancien Testament. Vous le savez déjà. Par exemple, vous pouvez lire en psaume 77, verset 21, « Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. » Donc le troupeau, ce n'est pas quelque chose qui est toujours, valorisant comme image. Hein, comme quand on voit des gens qui ont dit, ouais, ils sont là comme un troupeau. Hein, et c'est une manière de dire, voilà, c'est des gens qui suivent sans réfléchir. Ce n'est pas forcément une image qui est très positive et très valorisante. Mais la Bible parle du peuple de Dieu comme d'un troupeau, comme des brebis. On se rappelle bien le psaume 23 où nous pouvons lire « L'Éternel est mon berger », cette image du berger des troupeaux, et celle qui revient souvent dans l'Écriture concernant le peuple de Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou même comme dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, par exemple, acte 20, verset 28, nous pouvons lire cela. « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église qu'il s'est acquise, l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Christ, qui est le fils de David, lui, est présenté comme le divin berger. L'Église est présentée comme le troupeau, le peuple de Dieu est présenté comme le troupeau, mais Christ, lui, est présenté comme le divin berger. « Je suis le bon berger. » Au verset 4, on l'a vu, il est présenté comme le souverain berger, mais déjà au chapitre 1, regardez chapitre 2, de 1 Pierre, chapitre 2, verset 25, l'apôtre Pierre utilise déjà cette image pour parler des croyants, du troupeau, des brebis, des bergers. Il dit « Vous étiez comme des brebis errantes », donc ça c'est avant de le connaître, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Et donc, les croyants sont présentés comme le troupeau de Christ, ses brebis, et Christ est présenté comme le berger ici et le gardien. Et on trouve dans Hébreux 13, verset 20, que Christ est le grand pasteur des brebis. Le grand pasteur des brebis. Et donc, c'est que l'Écriture veut figer cette image dans notre esprit. Elle veut que l'on considère l'Église par rapport à Christ dans une relation qui est celle qui serait mieux représenté par l'image du berger que l'on peut voir dans la nature avec un troupeau. Pas d'un chef d'entreprise avec des employés. D'accord ? Pas d'une multinationale, mais d'un troupeau de brebis qui est conduit par un berger. Et cette imagerie pastorale des brebis, des bergers, est celle qui décrit le mieux probablement la nature de la relation entre Christ et l'Église. D'ailleurs, quand Michée annonce la venue du Messie, il dit Bethléem, il parle de Bethléem, la moindre d'entre les cités, de toi sortira un quoi ? Vous vous rappelez ? Un chef qui fera quoi ? Qui pètera. C'est encore l'image du berger. Le Messie lui-même est annoncé avec cette imagerie du berger qui va paître un troupeau. Ça, c'est la première chose. Donc, l'Église doit être considérée comme le troupeau de Dieu et Christ est le souverain berger. Mais les anciens sont des bergers du troupeau aussi, tout en faisant eux-mêmes partie du troupeau. C'est ça qui est particulier. Les anciens sont des bergers, on pourrait dire des sous-bergers, des bergers en dessous de Christ, mais des bergers du troupeau, tout en étant eux-mêmes brebis du troupeau. Et c'est comme cela que Dieu veut les choses. Dans sa sagesse, Dieu a désigner certaines brebis pour être des bergers, des sous-bergers. On va pour être, je dis sous, pour pouvoir bien saisir que ce sont des bergers sous l'autorité de Jésus-Christ. Donc il y a d'une part le divin berger, et puis il y a d'autre part les sous-bergers qui sont les anciens. Alors qu'est-ce qu'un ancien ? Le mot qui est utilisé ici par Pierre quand il dit, voilà, j'exhorte, j'adresse aux anciens, c'est un mot... c'est presbytéros qui veut dire ancien dans l'âge, vieux, quoi. On peut dire ça, ancien dans l'âge, mais qui a aussi le sens de maturité. D'accord ? Ancien, conseil d'ancien qui a un peu le sens de maturité. Les anciens, donc, sont appelés diversement dans l'Écriture. Parfois, on trouve le mot évêque, qui veut dire surveillant, un peu. Et puis, d'autres fois, pasteur, représenté souvent par la fonction, celui qui va paître, faire. PC, le troupeau, ça veut dire que vous êtes un pasteur. Un berger, c'est un pasteur. Un berger qui a des brebis, on appelle ça un pasteur. C'est une image pastorale, on dit souvent. Donc, ça peut être pasteur, ça peut être évêque, surveillant, ça peut être aussi ancien dans le sens de maturité. Ces mots sont toujours, presque souvent, ensemble. Par exemple, je vous lis Acte 20, verset 28, il dit « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Ça veut dire surveillant. Voilà, ça c'est une fonction de l'ancien. Pour paître, ça c'est le pasteur, vous voyez, l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Et puis ici, l'apôtre Pierre dit, j'écris aux anciens, donc ceux qui sont les presbytéros, donc ça c'est le troisième mot, et ils lui ont dit, PC, c'est le mot pasteur, vous voyez, donc ces choses sont utilisées ensemble pour faire comprendre un petit peu la fonction que doit remplir les anciens. Donc ils sont choisis, bien sûr, selon des critères de maturité spirituelle et de caractère et de qualité morale. On ne va pas prendre le temps de le faire, mais on l'avait fait, je pense que c'était pendant le confinement, avec 1 Timothée, quand on a étudié le mardi soir 1 Timothée, mais je vous invite à lire 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7, ou Tite 1, versets 5 à 9, où on peut voir que les anciens sont choisis sur des critères, non pas de compétences, même si les compétences sont importantes, mais de caractère moral, avant tout. Et bien sûr, de vie. Hein. Donc, ils ont la responsabilité du troupeau. C'est ce que Pierre dit ici quand il dit « paissez le troupeau ». Ils doivent diriger en se souvenant que Christ est le souverain berger, par excellence, et que le caractère de Christ doit les animer dans leur conduite du troupeau. Alors, on ne conduit pas, j'ai dit tout à l'heure, un troupeau comme on conduit une entreprise. Ce n'est pas la même chose. D'accord ? Et donc, en Ézéchiel 34, si vous lisez, eh bien, on voit beaucoup de reproches que Dieu fait aux bergers du peuple d'Israël. Ils n'ont pas agi envers son peuple comme ils auraient dû agir. Ils ne l'ont pas soigné, ils ne l'ont pas guéri, ils n'ont pas bandé ses plaies. Ils ne l'ont pas pansé. Il y a un certain nombre de choses qui nous laissent entrevoir ce qui est attendu du berger n'est pas ce qui est attendu de la direction d'une entreprise. Mais c'est un soin qui doit être apporté à des brebis, c'est un soin, quand on parle des anciens, qui doit être apporté à des âmes, à des personnes, et ça n'a rien à voir avec la gestion d'une entreprise. Alors Pierre souligne clairement ici la soumission que doit avoir les anciens au souverain berger. Il écrit bien, et lorsque le souverain berger, verset 4, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc, quelque part, il est en train de dire, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, mais attention, le souverain berger, lui, paraîtra un jour. Et vous aurez des comptes à rendre au souverain berger. Il y a aussi une récompense pour le travail qui sera fait selon aussi la parole de Dieu. Alors, l'Église, on peut le dire ici, ainsi, est donc le troupeau de Dieu et non d'un homme. Mais en même temps, Dieu établit des hommes pour diriger ici-bas son troupeau. Et diriger ce troupeau en étant eux-mêmes soumis au divin berger, en étant eux-mêmes des brebis du même troupeau. C'est assez particulier, hein, mais c'est comme cela. Hein. Nous sommes tous du troupeau, mais il y a ceux que Dieu établit pour être les bergers du troupeau. Mais ils ne doivent pas oublier qu'ils sont eux-mêmes aussi des bergers, des brebis du troupeau, sous la direction du souverain berger. Donc ça, c'est, je pense, la première réalité à laquelle venir les anciens quand ils pensent à leur responsabilité. Mais la deuxième chose que je veux souligner ici, dans cette responsabilité, c'est la tâche principale des anciens. Quelle est la tâche principale des anciens? D'après le texte ici, elle est de nourrir et de veiller, nourrir le troupeau et de veiller sur le troupeau. La tâche principale des anciens est de nourrir le troupeau et de veiller sur le troupeau. Paissez le troupeau qui est, verset 2, de Dieu qui est sous votre garde. Le troupeau est sous votre garde. Vous devez veiller sur lui et en même temps, vous devez le paître. Hein. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Paître et surveiller. Donc, il y a ici une double idée hein, de nourrir et de veiller. Tout comme on avait cette idée concernant Christ en 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger, le pasteur, et le gardien. Et le mot gardien ici, c'est le mot épiscopos qui veut dire surveillant, surveiller. Donc Christ lui-même est le pasteur et le gardien. Et il veut que les sous-bergers soient aussi pasteurs et gardiens, et qu'ils veillent sur le troupeau. Donc la tâche principale, c'est de paître les brebis en exerçant, on pourrait dire, une surveillance. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Paître, on l'a dit, c'est nourrir, enseigner, diriger. Le psaume 23 nous donne une petite idée. Dans ce que dit David dans ce psaume, il parle « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, voilà ce qu'il doit faire. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice. » Ce qui est dit ici, c'est ce que le berger fait pour les brebis, réelles dans la nature. C'est ce que les anciens doivent faire aussi concernant les brebis du troupeau aussi. Et Pierre ne le développe pas ici, mais on peut trouver cela ailleurs, dans d'autres textes. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je vous propose de lire 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et nous lisons verset 12, il dit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Il s'agit ici des anciens qui, ceux dont Paul parle ici, des anciens qui travaillent. Il demande à l'Église d'avoir de la considération, mais là, ce n'est pas cet aspect qu'on veut développer. On veut regarder ce qu'ils sont supposés faire. Ils travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. En 1 Timothée 5, 17, il est question des anciens qui dirigent aussi, que les anciens qui dirigent soient jugés d'un digne honneur, etc., etc., surtout ceux qui travaillent à la prédication. Donc, paître, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde ce texte, paître, ça veut dire exercer un dur labeur, travailler durement. Certaines personnes voient le ministère d'anciens comme une position, comme d'autres considèrent parfois une position de DRH, quoi, directeur des ressources humaines. On voit ça comme ça. Mais l'Écriture en parle en termes de fonction, on pourrait dire, effective. Les dirigeants sont désignés par leur responsabilité. Ils travaillent. Et donc, paître, c'est d'abord travailler, mais travailler durement. Parce que le terme qui est utilisé ici par dire quand l'apôtre Paul dit « Nous vous prions d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous », le terme qui est désigné par travail, c'est le terme de travail laborieux, travail difficile, un travail qui demande des efforts, un travail qui se traduit par de la fatigue. Le même mot est utilisé plus tôt dans la lettre, au chapitre 2, verset 9, quand il dit « Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine », c'est ce même mot, notre peine, et notre fatigue. Et là, il parle du travail laborieux que fournissent ceux qui sont parmi vous. Il parle des anciens qui sont parmi eux. En 1 Timothée 5, 17, Paul présente la prédication même comme un dur labeur. Alors, bien sûr, on peut ne pas préparer des choses, venir les mains dans les poches et puis dire ce qu'on a envie. Ça arrive parfois que des gens fassent comme cela. Mais ce n'est pas ainsi que l'Écriture considère la prédication de la parole de Dieu. Il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent, et le mot travail encore, c'est travail laborieux qui est ici, qui est dit ici. Ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 1 Timothée 5, verset 17. Donc le labeur de la prédication, le labeur de la prière, le labeur du soin des âmes, c'est ça la responsabilité des anciens, et ça fait partie de faire paître le troupeau. La responsabilité des anciens est d'assumer pleinement la peine de l'œuvre auprès des brebis. Ça fait partie du fait de paître les brebis. Ils ne doivent pas s'épargner le dur labeur. Et ils ne doivent pas, voilà, ils doivent consentir à tous les sacrifices qui sont selon la volonté de Dieu. Pas n'importe quel sacrifice, mais ceux qui sont, bien sûr, selon la volonté de Dieu. Donc, paître, si je reprends ce point que nous voulons voir, paître veut dire exercer un dur labeur. Mais paître, ça veut dire aussi conduire avec l'autorité conférée par Dieu. Et Paul dit dans le même verset, 1 Thessaloniciens 5, verset 12, « Je vous prie d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur. » Paître, c'est diriger dans le Seigneur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'assemblée est conduite. Il me conduit dans de verts pâturages, hein, disait David. L'assemblée est conduite dans le Seigneur par les anciens. C'est ainsi que Dieu veut les choses. Bien sûr, par l'Esprit de Dieu, mais il utilise les anciens pour le faire. C'est comme ça que Dieu veut les choses. Et ça veut dire quoi, diriger? Ça veut dire, le mot qui traduit par diriger, c'est se tenir devant. C'est le sens de présider. D'accord? Il dit que les anciens président, qu'il dirige. C'est ça que Dieu veut. Donc l'Écriture nous enseigne que la responsabilité de l'ancien, c'est vraiment de conduire, de se tenir devant l'assemblée et de conduire l'assemblée. L'ancien qui dirige, ça c'est un enseignement qui est fort dans l'Écriture. 1 Timothée 3, versets 4 et 5, il dit, il faut qu'il dirige sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Autrement dit, la direction de l'Église est telle qu'il faut avoir fait ses preuves auprès de la famille. Si les enfants font la loi et que la femme porte le pantalon, il risque de se laisser mener, cet ancien, par les caractères forts de l'assemblée. C'est comme ça. Et donc, la maison, parfois, est plus difficile à diriger que l'assemblée. Alors, Dieu dit, commence par la maison et après, on verra l'assemblée. C'est ainsi qu'il veut les choses. 1 Timothée 5, 17, on a déjà lu, il dit que les anciens qui dirigent bien. Donc, encore, il est question ici de diriger. L'action est mise sur la direction. Et cette autorité dans la direction, elle est conférée par Dieu. Quand l'apôtre Paul dit que le troupeau est échu en partage, il est confié par Dieu. Ici. Et on lit dans Actes 20, 28, que j'ai déjà lu tout à l'heure, il dit « Prenez garde à tout le troupeau, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » C'est une autorité qui est conférée par Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève un jour qui dit « Moi, je veux diriger l'Église. » Non, c'est Dieu qui confère cette autorité. Alors, parfois, on pense que c'est nous qui avons voté. Nous avons voté pour que telle personne ou telle autre soit un ancien dans l'Église. Certes, mais ce n'est pas ce que l'Écriture dit. L'apôtre Paul ne dit pas aux anciens de l'église d'Éphèse, qu'il fait venir ici, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'église vous a établi ancien, surveillant. Il dit sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. D'accord? Donc, même quand une église fait un choix, mais qu'elle le fait correctement selon la parole de Dieu, il ne faut pas que soit de notre esprit, c'est nous qui avons placé cette personne ici. Dans un certain sens, oui. Instrumentalement, oui. Fondamentalement, non. Fondamentalement, c'est le Saint-Esprit qui dirige les choses. La Bible dit même dans un proverbe, dans un proverbe que on tire au sort dans le pan de la robe. Mais c'est de Dieu que vient la décision. Il dit, même quand les gens font les choses pour tirer au sort, il dit, au-dessus, il ne faut pas oublier qu'il y a Dieu, et même la décision qui est prise par le sort qui est jeté, Dieu dirige les choses. Il a une telle souveraineté que même là, il agit. Lorsqu'on pourrait penser que c'est le hasard, il agit. Alors, imaginez, dans son église, même quand les choix sont faits, s'ils sont faits selon la parole de Dieu, eh bien, il dit, n'oubliez pas que c'est le Saint-Esprit qui place. Et on ne doit pas oublier que chaque membre qui vient dans une église, ce n'est pas non plus nous qui avons voté pour que les personnes soient des membres de l'église, c'est Dieu qui les a ajoutés. Qui c'est qui ajoute les personnes à l'église? C'est le Seigneur qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Et c'est ainsi que les choses se passent dans l'église de Christ. Alors, à la fois l'église et les anciens eux-mêmes doivent prendre la mesure de cette vérité-là. Il est du devoir de l'ancien d'assumer pleinement cette position de diriger et cette responsabilité, sinon il résiste à la volonté de Dieu qui l'a placé ainsi. Et l'apôtre Paul disait à Tite, dis ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. C'est-à-dire, il dit, tu es jeune, pas jeune, il dit, c'est Dieu qui te donne cette autorité, tu dois l'utiliser avec sagesse, mais tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, tu ne fais pas ce pourquoi Dieu t'a placé ici. Et on peut penser à Moïse, vous vous rappelez, Moïse et Aaron, lorsque, dans l'affaire du veau d'or, lorsque Moïse est parti sur la montagne, et puis il a disparu pendant 40 jours, et le peuple a dit, voilà, Aaron, fais-nous un veau, etc. Ils ont mélangé des choses, ils ont obtenu un veau d'or, etc. Lorsque Moïse redescend, il parle à qui? À Aaron. Et il lui dit, mais qu'est-ce que le peuple t'a fait pour que tu le laisses faire ça? Il dit, tu n'aurais jamais dû laisser le peuple faire ça, c'est pas possible. Et par deux fois, le texte dit ici que Moïse vit qu'Aaron n'a pas empêché le peuple de faire. Il avait la responsabilité de le faire, d'user de son autorité pour conduire dans ce sens. Et il ne l'a pas fait. Et Moïse lui reproche cette absence d'autorité. Donc il est du devoir de l'Assemblée, des anciens, d'assumer leurs responsabilités, mais aussi du devoir de l'Assemblée d'accepter cette position et de s'y soumettre, sans quoi elle résiste aussi à l'ordre que Dieu a établi. Et franchement, le plus facile pour un ancien, c'est de ne pas remplir sa responsabilité de diriger. Ça, c'est le plus facile. De ne pas exercer l'autorité que Dieu confère. C'est plus facile d'écouter un autre et puis de faire un peu ce qui plaît à, qui pourrait plaire à tout le monde, même si on dit qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. L'ancien qui ne dirige pas et qui avance au gré des désirs des uns et des autres n'agit pas selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas le troupeau qui doit conduire le pasteur, le berger. C'est le berger qui conduit le troupeau. C'est comme ça que Dieu veut les choses. Dans tous les lieux où il y a des structures d'autorité, c'est ainsi que les choses doivent fonctionner. Ce n'est pas les militaires qui conduisent le chef d'état-major, c'est le chef d'état-major qui conduit les militaires. Prenez n'importe quel... J'ai pris cela par exemple, parce que j'ai entendu dernièrement quelqu'un qui disait que, parce qu'on est en pleine guerre, eh bien, il y a les armées qui sont en déroute parce qu'en haut, il n'y a pas de direction. Et ils ne savent pas trop comment diriger en haut. Donc, et ce n'est pas dans ce sens que ça va. D'accord? Et c'est comme ça que Dieu veut que les choses aillent. Ça, nous, c'est quelque chose qui nous déplaît profondément parce que nous sommes un peu comme certaines personnes, et nous tous, moi compris, comme certaines personnes qui sont décrites dans la Bible et qui disent « Nous ne voulons pas que ces personnes règnent sur nous. » On avait dit ça à propos de Jésus. « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » On aime être libre de ce qu'on doit faire. J'ai pas besoin que quelqu'un me dise ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire. Et on agit parfois ainsi dans l'Église de Christ. J'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire. Je suis suffisamment grand. Je connais la parole de Dieu. J'ai pas besoin de quiconque pour me dire ce que je dois faire. C'est pas ce que l'Écriture dit. L'Écriture nous décrit comme un troupeau de brebis. Et vous savez, la particularité d'un troupeau de brebis, c'est qu'il est fragile, c'est qu'il est faible, c'est qu'il est influençable. Et j'entendais même un pasteur qui disait, les brebis, c'est stupide. Nous sommes comme cela, tous. Tous. Nous pouvons être facilement influencés. Et Dieu est sage, il est plus sage que nous. Il sait comment les choses doivent fonctionner. Et s'il a choisi cela, c'est parce que c'est comme cela qu'il veut que ça fonctionne. Même si nous ne comprenons pas pourquoi. C'est ainsi qu'il veut que les choses fonctionnent. Donc, paître, c'est conduire avec l'autorité qui est conférée par Dieu. Et paître, c'est aussi instruire bibliquement. Paître, c'est instruire bibliquement. L'apôtre Paul dit, je reprends ce passage de 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Il dit, il parle de ceux qui, 1 Thessaloniciens 5 et au verset 12, il dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Parfois, on peut remplacer le... Enfin, exhorte, c'est aussi qui vous instruisent. Et ce mot est composé, en fait, de deux mots. L'un qui veut dire esprit ou pensée, et l'autre qui veut dire placer et poser. Donc, quand il dit qu'il vous exhorte, que les anciens vous exhortent, il dit que ce sont ceux qui placent dans votre esprit la vérité de la parole de Dieu. C'est ce que veut dire instruire. C'est prendre la parole de Dieu et la placer dans l'esprit pour que les brebis que nous sommes, nous puissions réfléchir avec cette parole-là. C'est conduire dans un pâturage où on peut manger cette herbe-là et pas une autre. C'est comme cela qu'il faut le comprendre. Instruire, ce n'est pas simplement prêcher la parole depuis le pupitre. Ça fait partie. Ça, c'est une petite partie de ce que cela veut dire. Instruire va plus loin que cela. Instruire, c'est chercher à faire pénétrer dans l'esprit la vérité de la parole afin que la conduite soit conforme à la parole de Dieu. Et on trouve cela dans ce que l'apôtre Paul dit aux anciens de l'église d'Éphèse. Acte 20, versets 20 et 21, il dit ceci. Il dit, « Vous savez que je n'ai rien caché de tout ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner. » Il dit deux choses ici. Il a prêché et il a enseigné. C'est presque comme il a instruit. La prédication est une chose. La prédication magistrale est une chose. Ce qu'on fait chaque dimanche ou chaque mardi, c'est une chose. Mais ça ne s'arrête pas, ça ne doit pas s'arrêter à là. Il dit, « Je vous ai prêcher et enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Il dit donc prêcher et enseigner. Et le terme prêcher, ça a un sens général, tandis que le second, ça a celui de faire assimiler. Enseigner ici, c'est faire assimiler. Comme un prof, c'est un vrai prof, il cherche à faire assimiler une vérité à ses étudiants. Parfois, ils ne comprennent pas, alors qu'est-ce qu'on fait ? Choisis un autre exemple pour essayer d'amener la compréhension claire sur ce qu'on veut enseigner. C'est ce que Paul dit ici. Il fait un vrai travail d'enseigner. Il s'agit d'instruire de manière à ce que les brebis marchent d'une manière digne de l'Évangile. Un peu plus loin, il dit ceci dans le même passage, en acte 20, il dit « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. » Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. C'est pas quelque chose qu'il a fait simplement magistralement, c'est quelque chose qu'il a pris soin méthodiquement de faire. Il enseignait d'une manière telle qu'il pouvait se dégager de toute responsabilité. Ça fait partie de paître le troupeau, c'est-à-dire... Il faut pouvoir se dire, quand on part, je crois, par la grâce de Dieu, qu'on a fait tout ce qu'on aurait dû faire. Pas souvent le cas, quand on fait le bilan, mais c'est ce qu'on devrait faire. Paul part et il dit, j'ai rien sur la conscience. Il dit, il n'y a rien qui vous a été caché. Si maintenant vous vous égarez, faites n'importe quoi, je suis net de votre sang. Si vous vous perdez, ce n'est pas à cause de moi. C'est ce qu'il est en train de dire, hein, parce que je vous ai tout annoncé. Je vous ai dit la vérité. Vous n'avez pas voulu la croire, mais je vous l'ai dit. Et c'est ainsi que les anciens doivent travailler. L'enseignement qu'il a dispensé sur l'ensemble du conseil de Dieu lui permet de partir sereinement. Et regardez ce qu'il dit encore, il dit qu'il l'a fait de manière publique, de manière privée, de manière individuelle. Il dit ici qu'il a prêché publiquement, il y avait l'école de Tyrannus, il l'a fait dans un institut biblique qu'il avait créé, il a prêché aussi dans les maisons, ici, et il a prêché individuellement. Il dit ceci, « Je n'ai cessé d'exhorter nuit et jour chacun de vous. » Verset 31, acte 20. « Cessez d'exhorter nuit et jour chacun de vous. » C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était individuel. Il allait voir les gens et puis on appelle ça catéchiser. On fait le catéchisme le dimanche matin, mais catéchiser, c'est enseigner, c'est faire pénétrer oralement la vérité dans l'esprit. Il dit « Voilà ce que j'ai fait. » Donc, il ne s'est pas contenté de grands exposés magistraux, mais il a poursuivi les fidèles jusque dans leur maison. Et chers frères et sœurs, c'est quelque chose que nous n'aimons pas. On n'aime pas être poursuivi jusque dans notre maison. On aime plutôt dire, prédicateur, prêche depuis la planche de bois et laisse-nous régler les affaires de la vie quotidienne. Mais c'est ne pas faire le travail que Dieu confie que d'accepter cet état des choses. Il dit que l'ancien doit paître le troupeau. Il doit aller jusqu'à instruire, à faire pénétrer la vérité. Dans 2 Timothée chapitre 2, versets 23 à 26, je vous lis ce passage. 2 Timothée 2, versets 23 et 26, l'apôtre Paul parle des serviteurs de Dieu et il dit ceci, il parle des jeunes, verset 22, il dit « Fuis la passion de la jeunesse » et puis verset 23, il dit « Repousse la discussion folle » et puis verset 24, il dit « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. » Et verset 25, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Il doit agir avec cette recherche que la vérité va pénétrer dans ce cœur, dans cet esprit, et puis que cette personne arrivera à la repentance. C'est ça qu'il doit poursuivre comme but pour chaque brebis. Il ne doit pas dire, bon, il n'a qu'à se débrouiller, il connaît la parole de Dieu autant que moi, voilà, ça fait 10 ans qu'il est au Seigneur. Non, il dit, il doit faire en sorte que la vérité pénètre. Il doit le faire avec douceur, il doit être affable, il doit le faire avec patience, mais il doit le faire. Et puis regardez ce qu'il dit après. Il dit, et que revenu à leur bon sens, ça veut dire que ce sont parfois des brebis qui ne sont pas dans leur bon sens. Elles pensent qu'elles le sont. Mais elles sont, regardez comment elles sont, il dit plus loin, elles sont empêtrées dans les pièges de qui ? Du diable. Revenus dans leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est-à-dire que parfois, on n'est même pas conscient que le diable nous a pris dans ses filets et que notre manière même de penser, d'agir, de réagir, ne correspond absolument pas à la parole de Dieu. On a besoin d'entendre la vérité, de la laisser pénétrer en nous. Et ça prend parfois de la patience pour le faire. C'est pour cela que lorsque un ancien nous dit, frère, je vais passer te voir, on lui dit, non, je n'ai pas besoin que tu passes chez moi. Ou s'il vous dit, viens, on va dire, non, je n'ai pas besoin de venir chez toi. Soyons soumis à ce que la parole de Dieu nous dit. Nous avons besoin, l'ancien lui-même a besoin, parfois par un autre, d'être repris aussi. Il doit accepter cela. Mais dans le fonctionnement que Dieu veut pour son Église, il veut que ça aille jusqu'à l'instruction qui consiste à placer la vérité dans l'esprit, pas pour enfoncer les gens, non, dans l'optique de la restauration, qu'ils puissent à nouveau être remplis de la connaissance de la vérité et qu'ils sortent du piège du diable qui le maintient. Et le monde cherche à nous maintenir dans des pièges, dans des schémas de pensée, dans des choses qui ne sont absolument pas selon la volonté de Dieu. Et ce dont nous avons besoin, c'est qu'on nous enseigne, qu'on nous instruise de la parole de Dieu. C'est ce dont nous avons le plus besoin. David, berger, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait, vous rappelez ça ? Et enlevait une du troupeau, qu'est-ce qu'il faisait ? Il dit, je courais après lui. Vous avez déjà couru après un lion ? Il dit, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. C'est quelque chose quand même, hein ? C'est l'image de ce que doit faire un ancien, des anciens, quand une âme est prise. Il ne doit pas l'abandonner à son doigt. Je l'avais déjà prévenu. Il dit, non, non, il faut tout faire pour arracher de l'emprise du diable, du piège. Le diable est comme un, plus loin, il dit que le diable est comme un lion rugissant, hein, de ce lion rugissant qui cherche à dévorer. Ça se passe dans la prière, ça se passe dans les visites, ça se passe. Mais il faut laisser faire cela. Et ne pas le faire, c'est aller à l'encontre de la parole de Dieu. L'ancien, ce n'est pas celui qui dit, ben écoute, va voir le psy. Ou je pense que, voilà, tu dois faire ceci ou cela. Mais il doit parler selon le principe, l'écriture. Chercher à faire pénétrer, instruire, c'est ce que ça veut dire. Et c'est ce que Jésus a dit à Pierre après sa résurrection. Il dit, Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Qu'est-ce que Jésus lui dit ? Par trois fois. Paix mes brebis, paix mes agneaux, paix mes brebis, fais les paître. Et c'est ce qu'il est en train de faire ici. C'est exactement ce qu'il est en train de faire ici. Et dans la deuxième épître, il dit ceci, je vous lis, dans la seconde épître de Pierre, il dit cela concernant ce qu'il fait avec ses croyants, il dit, voilà, même au chapitre 3, il dit, voilà, mes bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris est dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Et au chapitre 1, il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité. Parfois, les gens disent, mais je connais toutes ces choses, c'est pas la peine que tu viennes me la raconter, je les connais. Ça fait des années. Et même si vous connaissez, je prendrai soin de vous les dire et de vous les redire, parce que je veux que vous vous en souveniez. Et il dit, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Et c'est ça que ça veut dire, Pêtre. Jésus lui a dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Et voilà comment il le fait. Il fait pénétrer la vérité. Et il prend cela comme un devoir. Il dit, aussi longtemps que je suis vivant, j'ai pas soin que vous vous souveniez de moi, hein. J'ai soin que vous vous souveniez de ces choses, de la parole de Dieu. Et je ferai tout pour vous tenir en éveil concernant les vérités de la parole de Dieu. Et je termine, chers frères et sœurs, en disant que la parole de Dieu doit nous servir de guide pour savoir si les anciens accomplissent correctement leurs tâches. Ça n'est pas à nous de dire, oh, ils devraient faire ça, oh, ils devraient faire ci. Mais c'est notre responsabilité, puisque l'apôtre Pierre écrit à l'Église ce qu'il a dit aux anciens. Donc il veut que l'Église puisse prendre cette vérité, qu'elle puisse dire, mais l'ancien ne se dirige pas selon ce que l'Écriture demande ici. Okay. Et ça doit nous encourager à prier pour. Pas chercher à blâmer, pas critiquer, mais prier pour. Et faire en sorte que ce travail qui est demandé de lui soit favorisé, soit accompli. Qu'il soit dans des circonstances, des conditions qui lui permettent d'exercer cette responsabilité. C'est sûr que si on l'appelle pour déboucher les lavabos et de faire tout un tas de trucs, faire des déménagements tout au la journée, ça ne sera pas possible. Donc il y a des moments où il y a des choses que l'on peut chercher à faire pour favoriser. C'est comme ça que l'on doit œuvrer ici. Et puis, le rappeler, l'apôtre Paul par la Tite, il dit qu'il faut rappeler les anciens à leurs responsabilités s'ils ne le font pas. Et s'ils agissent mal, il faut aussi dans la manière avec laquelle Dieu demande de faire les choses, de le faire. Mais on doit prendre la parole de Dieu et on ne doit pas exiger d'eux moins que ce que l'Écriture exige. Ni plus, mais pas moins que ce que l'Écriture exige. Si elle dit qu'ils doivent paître le troupeau, on doit s'attendre à ce qu'ils paissent le troupeau. Mais aussi, on doit soi-même être dans les conditions qui permettent le bon exercice de cette responsabilité. Hébreux chapitre 13, verset 17 dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » Vous savez ce que c'est que la déférence? C'est-à-dire, ça veut dire « Ne résistez pas, laissez faire. Je vais te visiter. » Non. Il dit « Non, non, non. Tu as de la déférence. Tu te laisses faire. Tu es enseignable. Tu es enseignable. Tu dois exiger qu'il fasse comme l'Écriture dit, mais toi, tu dois faire aussi comme l'Écriture te demande de faire. La brebis que nous sommes, nous devons faire aussi comme l'Écriture nous demande. Agir avec de la déférence. Et il ajoute, car il veille sur vos âmes comme devant rendre compte. Comme devant en rendre compte. Un jour, il rendra compte. Qu'il en soit ainsi, avec cette déférence, cette soumission, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est-à-dire que si on ne se soumet pas, on ne fait pas avec déférence, que l'ancien ne fasse pas avec joie, nous-mêmes, nous n'allons pas en profiter. C'est biblique, hein? C'est ce que Dieu dit, c'est ce qui se réalise. Donc prions que le Seigneur nous aide à développer une vie, une relation d'église qui soit conforme à sa parole. Nous sommes le troupeau de Dieu. Christ est le souverain berger. Mais dans sa sagesse, il a mis sur nous des anciens pour nous diriger. Et nous devons nous soumettre à cette volonté. Nous devons prier pour que eux puissent exercer le ministère tel que Dieu veut qu'il l'exerce et pour que nous puissions agir aussi à leur égard tel que l'Écriture veut que nous le fassions. Et je voudrais m'adresser aussi à ceux qui peut-être sont encore des brebis errantes ici ce matin, égarées, comme l'apôtre Pierre le dit en 1 Pierre 2, 25. Eh bien, Christ est le souverain berger qui vous appelle à lui, qui vous appelle dans son pâturage, qui vous appelle dans sa bergerie. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et vous pouvez venir à lui dans la foi et dans la repentance. Il veut être votre berger, votre souverain berger. Que le Seigneur nous conduise. Prions. Oui, Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole et nous te prions que tu nous aides à vivre selon ta parole, pas selon ce que nous avons envie de vivre ou selon notre propre conception humaine des choses. Nous avons besoin d'être façonnés par ta parole, d'avoir notre esprit qui soit rempli de ta parole, instruit par ta parole. Seigneur, aide-nous à être une église qui vit véritablement comme ton troupeau. Te prions pour tous ceux qui nous dirigent, afin qu'ils puissent le faire avec sagesse et comme nous allons le voir plus tard avec dévouement, avec empressement, en cherchant à être des modèles. Donne-nous des anciens qui soient soumis à ton esprit, qui travaillent à la prédication de ta parole, qui accomplissent pleinement les tâches que tu attends d'eux, qui soient à l'écoute, sensibles, affables, pleins de douceur envers tous. Seigneur, nous te prions pour une église, pour que nous soyons aussi obéissants, que nous cherchions, Seigneur, à nous soumettre, à marcher comme ta parole nous le commande. Seigneur, la fin de toutes choses est proche et c'est cette exhortation que nous avons ici ce matin, que nous devons marcher, nous laisser instruire, nous laisser conduire et que nous devons aussi agir d'une manière qui soit conforme à ta volonté. Aide-nous et conduis chacun d'entre nous pour la gloire de ton nom. Amen.